Additional.
Board members. Évangile selon Jean. Chapitre 1. Verset 35. Jusqu'à 51. Le lendemain, Jean-Baptiste était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus, qui passait, et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, dit qu'il le suivait, et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui se traduit par maître. Où demeures-tu ? » Il leur dit, venez, et vous verrez. Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de ceux, l'un des deux qui avait entendu Jean, le Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit en Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens voir. » Jésus dit à Nathanaël, venir à lui, et dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ?» Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il dit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Sœurs et frères en Christ, venez et vous verrez. Venez et voyez, dit le Fils de l'homme à ceux qui l'interpellent sur son chemin. Aujourd'hui, dans notre société de l'image, notre formule serait plutôt « voyez et venez ». Voyez et achetez. Voyez et consommez. Voyez et applaudissez. Voyez et éclatez-vous dans les réseaux sociaux. Avec Jésus-Christ, avec les évangiles, il y a donc une autre logique. Venez et voyez. Venez et vous verrez. Comment entendre cette première injonction? Nous pourrions, dans un premier temps, entendre cela comme un appel à l'engagement. Engagez-vous dans une démarche et vous verrez. Mais engagez-vous d'abord. Là, si nous sommes normalement constitués, nous résistons. Notre méfiance naturelle prend le dessus, et pourquoi m'engagerais-je?
avant de voir ce qu'il en est vraiment. Et qui es-tu donc, toi, Jésus, qui me demande de m'engager à te suivre alors que je ne te connais pas encore? Qui me prouve que mon engagement à te suivre ne sera pas un fiasco? C'est le fameux saut dans l'inconnu. Et nombre d'individus se la posent cette question et se disent en eux-mêmes: je voudrais bien, mais je n'ai pas toutes les assurances. Dans ce récit de l'Évangile selon Jean, celui qui nous demande de le suivre ne se contente pas de oui et valise. Il ne nous encourage pas à la tiédeur. Il attend de chacun de nous que tout notre être entier s'engage à le suivre. C'est une prise de risque totale. Venez et vous verrez, dit Jésus. Les deux disciples de Jean le Baptiste, avant d'être encouragés à suivre Jésus, avaient été intrigués par une parole de ce prophète qui disait, en montrant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Cette parole les a intrigués et les a poussés à poser une question toute simple à Jésus. Mais reconnaissons-le, une question un peu surprenante. Où demeures-tu? Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous lui posons plutôt comme question: tu travailles dans quelle branche? Tu as fait quoi comme formation? Pour ces deux disciples, la bonne question aurait été: où enseignes-tu? Car nous voulons t'écouter, Rabbi, et non pas où demeures-tu. L'évangéliste Jean, par cette manière de parler, oriente notre esprit vers une toute autre direction. Il nous faut donc préciser cette question surprenante des deux disciples avant d'aller plus avant. Pour cela, nous nous dirigeons vers le chapitre 15 de ce même évangile selon Jean et nous écoutons Jésus raconter une parabole à ses disciples. Il leur dit: le sarment, s'il ne demeure pas attaché à la vigne, littéralement, s'il ne demeure attaché dans la vigne, ne peut porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Cette parabole du cep de vigne, du sarment et des fruits de cette vigne traduit d'une manière imagée la réalité spirituelle de ce verbe demeurer qu'utilise l'évangéliste Jean. Donc la vigne, c'est Jésus, les sarments, c'est nous, le fruit de la vigne, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire la paix, la joie, la foi, l'amour. La sève qui coule dans cette vigne, c'est la vie selon Dieu. Cette vie selon Dieu coule aussi dans les sarments et permet au fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, de croître et d'être visible pour nos contemporains à travers nos vies fragiles et faillies. Donc demeurer en lui, en Jésus, c'est prendre conscience que nous participons dans notre rôle de sarment à ce que cette vie selon Dieu rayonne au-delà de nous. La seule exigence que nous demande Jésus dans cet évangile est donc de demeurer en lui. Demeurer en lui, comme lui demeure en Dieu, et Dieu en lui. J'ai bien conscience que ce genre de formulation peut en rebuter certains d'entre nous. Il faut peut-être formuler cela d'une autre manière. Cette autre formulation pourrait commencer par une question, toute simple. Où demeurons-nous les uns et les autres? Dit autrement, où plaçons-nous notre vie, notre existence, notre essentiel? C'est quoi notre essentiel? Et si nous l'avons défini les uns et les autres, où demeure-t-il? Pour ma part, mon essentiel, c'est ma vie. Il n'y a rien à mes yeux de plus précieux que la vie. La mienne comme celle de tout être vivant. À la question où demeurons-nous les uns et les autres, où plaçons-nous notre vie, notre existence, les uns et les autres? Il m'est impossible de répondre d'une manière général. Je ne puis y répondre qu'en faisant une... Il m'est donc impossible de répondre à cette question d'une manière générale. Je ne puis répondre qu'en faisant une relecture de mon propre parcours spirituel. Quand j'avais 16 ans, j'avais mis toutes mes espérances, ma vie, dans un engagement politique. Une grosse déception s'en est suivie. Mon idéal a été confronté à la dure réalité de l'univers politique. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai passé ma vie dans le football, que je pratiquais depuis l'âge de 10 ans, pensant trouver là aussi ma voie. Mais les limites physiques ont eu raison de mes ambitions. Puis à l'âge de 21 ans, je me suis plongé corps et âme dans la passion du théâtre, persuadé que j'étais, que je trouverais enfin une plénitude dans cet art. Cela a duré une bonne dizaine d'années. Mais là aussi, les réponses espérées n'étaient pas au rendez-vous. Entendons-nous bien, ces trois descriptions ne disent surtout pas qu'il ne faut pas se lancer dans la politique, ni de pratiquer du sport, ni de s'immerger dans une démarche artistique. Elles expriment seulement qu'en ce qui me concerne, j'avais investi plus qu'il ne fallait dans ces trois engagements. Après toutes ces découvertes, après toutes ces déconvenues, la surprise est venue de Dieu lui-même, qui, en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, a manifesté sa vie dans ma propre existence. Sa vie a rempli la mienne et je demeure en lui, pour reprendre la terminologie de l'évangéliste Jean. Mais là aussi, j'ai bien conscience que cette seconde formulation n'est pas suffisante. Certains ont décrit la quête de l'absolu d'un individu qui, à chaque fois, s'est terminé dans une impasse. Mais cette seconde formulation ne nous dit rien sur la manière dont notre Dieu s'y prend pour se manifester à nous. Le paradoxe ici, c'est que Dieu nous rencontre non pas là où nous croyons le trouver, mais là où il a décidé de nous rencontrer. C'est ce que va tenter d'expliciter la troisième formulation à venir qui nous permettra, je l'espère, de mieux saisir ce que cherche à nous dire l'évangéliste Jean dans cette expression de Jésus de demeurer en lui. Troisième formulation. Lorsque la vie de Dieu, la vie du Christ, nous rencontre, notre vie découvre et trouve sa juste place devant Dieu et devant les êtres humains. Vous remarquerez que j'insiste ici sur le fait que c'est la vie du Christ qui vient à notre rencontre. Notre vie trouve donc son véritable sens parce qu'elle est rencontrée, inondée par cette vie de Dieu qui, par Jésus le Christ, vient à notre rencontre. Il y a deux mouvements, deux actions que nous devons préciser. Il y a notre élan vers Dieu qui est réel et important, et l'agir de Dieu vers nous. Pour ma part, je croyais qu'en plaçant ma vie dans la politique, le sport et l'art, j'allais m'accomplir, me réaliser pleinement. Il n'en fut rien. Par la suite, je croyais encore qu'en m'élançant vers Dieu, je pourrais placer ma vie en lui et accomplir mon existence. Nouvelle déconvenue. Ce n'est pas mon élan qui trouve Dieu, c'est Dieu qui me trouve. C'est lui qui donne sa vie pour nous sur la croix. C'est lui qui réalise cela. Il est celui qui vient. Notre vie ou notre esprit cherche souvent à s'élever du mieux qu'il peut en visant un objectif. Et voilà que notre Dieu vient à notre rencontre des profondeurs de son être. Il jaillit, inonde notre vie et nous apprend à vivre sa vie. Et à partir de cette rencontre, de ce mouvement de Dieu vers nous, nous sommes en capacité de nous élancer vers lui, de le chercher et de le trouver. Et ce faisant, nous apprenons jour après jour la profondeur de sa grâce surabondante pour chacun de nous, mais aussi sa manière d'aimer, pour, à notre tour, apprendre à aimer comme le Christ Jésus nous aime. En venant vers nous, il donne donc sa vie pour que nous vivions à travers elle. Voilà donc une troisième façon d'exprimer cette expression de demeurer en lui, demeurer en Christ. Elle nous a permis en tout cas d'insister sur cette initiative de Dieu qui, lorsqu'il vient à notre rencontre, il nous encourage à demeurer en lui, à nous engager à le suivre, à l'écouter, à lui obéir, à vivre de lui, par lui, avec lui, en lui. Lui qui est la vie, le mouvement et l'être, comme nous le rappelle le livre des Actes des Apôtres. Récapitulons tout ce que nous venons de dire. Nous avons insisté au début de cette prédication sur l'importance d'un engagement aveugle envers le Christ. Puis nous avons insisté sur notre rôle de serment qui est traversé par cette vie selon Dieu, afin qu'elle s'épanouisse au-delà de nous. Enfin, nous nous sommes attardés sur le fait que celui qui fait le premier pas en notre direction, c'est notre Dieu. Et s'il fait le premier pas, c'est pour que nous demeurions en lui. Il est temps maintenant pour moi de conclure. Dans ce récit de l'Évangile selon Jean, Jésus se définit comme étant le Fils de l'homme, à la fin du texte que vous avez entendu. En se définissant ainsi, il offre une réponse à ceux qui le suivent et qui sont de culture juive. Ils savent en effet que le Fils de l'homme, dans la Bible, symbolise l'être humain, et plus précisément, l'Adam. Cet Adam de qui sont issus tous les êtres humains selon l'enseignement qu'ils ont reçu à la synagogue. Ce Fils de l'homme, pour le judaïsme encore aujourd'hui, n'est pas encore venu. Lorsqu'il viendra, il accomplira l'histoire. Mais l'évangéliste Jean propose une lecture théologique plus large sur ce Fils de l'homme qui vient, qui est venu, et qui est là en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. L'évangéliste Jean annonce clairement que le jugement a été réalisé lors de l'élévation du crucifié, mort et ressuscité des morts. En annonçant cela, il met en lumière l'objectif premier de ce jugement déjà réalisé à la croix et qui sera pleinement visible pour tous lorsque ce Fils de l'homme apparaîtra dans la gloire à la fin des temps. Quel est donc cet objectif premier? C'est tout simplement d'offrir gratuitement à toute l'humanité une véritable et éternelle relation commune avec Dieu, notre Père. Le but de la venue du Fils de l'homme en Jésus-Christ est donc de greffer l'être humain à Dieu. Et cette greffe a pour conséquence première de donner à l'être humain un sens aigu de la justice selon Dieu, afin de la vivre pleinement, paisiblement, dans le lieu où nous vivons. Un tel acte héroïque ne pouvait se réaliser que par Dieu lui-même, qui en Jésus-Christ sur la croix assume la désobéissance originelle de l'humanité. Ce même Dieu en Jésus-Christ, par sa mort, nous délivre du péché, c'est-à-dire de cette coupure relationnel avec lui, et qui, par sa résurrection, greffe notre humanité à lui, afin que nous goûtions à cette communion avec Dieu notre Père. Communion qui ne pourra jamais être coupée, brisée, rien ne pourra désormais nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Cela annonce clairement que cette vie de Dieu qui coule dans nos veines est là pour que nous reflétions cet amour selon Dieu dans le quotidien de nos vies. C'est donc lui, notre Dieu, qui fait le premier pas. Il vient. C'est lui qui réalise tout cela sur la croix. C'est lui qui nous donne sa vie par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous encourage à demeurer en lui pour vivre et rayonner de sa grâce. Et rayonner